matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada.
Bienvenue à vous et bonjour Daniel Saada.
Bonjour.
Un déluge de feu, des centaines de roquettes du Hamas, de multiples frappes aériennes de Tsahal, c'est un déchaînement de violence. Est-ce que vous dites ce matin qu'un point de non-retour a été franchi?
Je crois que cette nuit peut être l'un des crimes de guerre les plus abjects, les plus terribles du 21e siècle a eu lieu puisque on a essayé d'assassiner de sang-froid des centaines, peut-être des milliers d'Israéliens civils en Israël cette nuit.
Un crime de guerre, monsieur l'ambassadeur, mais il n'y a pas eu ces milliers de victimes dont vous parlez.
Vous savez, des centaines de roquettes, ce qu'on appelle des roquettes, ce sont des missiles, c'est entre 40 et 60 kilos d'explosifs chacun, ont été tirés sur des zones civiles avec une densité la plus forte. 4 millions d'Israéliens se trouvaient sous le feu de ces missiles. S'il n'y avait pas eu le système de défense antimissile, il y aurait ce matin plusieurs milliers de morts en Israël.
Tout comme il faut s'indigner des victimes civiles israéliennes touchées mortellement par les roquettes du Hamas, est-ce que vous vous indignez ce matin avec autant de force et d'émotion des victimes civiles palestiniennes?
Je m'indigne essentiellement lorsqu'on cible délibérément des civils, ce qui n'est pas le cas des frappes israéliennes. Nous sommes en train de mener une guerre de défense. Et c'est cette défense, la légitimité du droit à nous défendre, qui est en cause aujourd'hui.
Vous visez des dignitaires du Hamas, mais vous considérez que les habitants de Gaza sont des victimes collatérales, des complices du Hamas?
Nous considérons que le Hamas est responsable lorsqu'il pratique la politique des boucliers humains, lorsqu'ils prennent délibérément leurs civils pour servir de boucliers humains. C'est eux qui portent la responsabilité
de
ces pertes.
Mais ce sont aussi vos bombes, monsieur l'ambassadeur, qui tombent parfois sur des enfants palestiniens.
Que voulez-vous que nous fassions? Que voulez-vous vous attendez à quoi? Est-ce que nous restions les bras croisés? Que nous laissions des centaines de missiles tomber sur nos villes? Que nous vivions dans la terreur? Nous sommes obligés de nous défendre et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de rendre ces frappes les plus chirurgicales possibles.
Mais vous êtes un État, est-ce que vous n'avez pas les moyens, et comme vous l'a demandé la France d'ailleurs, d'avoir un usage proportionné de la force et de la violence?
Alors j'aimerais bien qu'on me donne le mode d'emploi. C'est quoi l'usage proportionné? Lorsqu'on tire 850 missiles sur des zones civiles, nous devons envoyer 850 bombes. Lorsqu'on essaye de tuer des milliers d'Israéliens, je dois essayer de tuer des milliers de Palestiniens. Il n'y a pas de proportion dans ce conflit.
Mais c'est un conflit asymétrique.
Il n'y a pas de proportion dans ce conflit.
C'est asymétrique.
Absolument pas. Il n'y a absolument pas de symétrie dans ce conflit. Nous sommes un État, c'est une organisation terroriste. Nous sommes un pays qui aimons la vie, ce sont des djihadistes. Nous sommes un État de droit, c'est une dictature théocratique.
Est-ce que c'est aussi binaire, monsieur l'ambassadeur, à Gaza? Il y a des habitants, il y a des civils, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Vous ne pouvez pas les mettre tous dans le même sac que le Hamas, cette organisation.
Évidemment que nous ne mettons pas dans le même sac. Mais nous ne pouvons pas rester indifférents lorsqu'on essaye d'assassiner, comme on l'a fait cette nuit, des milliers de nos citoyens.
Mais jusqu'où irez-vous? Est-ce qu'une opération, comme on le dit, terrestre, est-ce que vous le confirmez dans la bande de Gaza, une opération de l'armée israélienne est en préparation avec toutes les conséquences que cela peut comporter?
Vous savez, cela fait malheureusement plusieurs fois que nous sommes confrontés à la violence en provenance de Gaza. Nous allons célébrer en octobre le 20e anniversaire de ces tirs de roquettes sur Israël. Nous sommes malheureusement confrontés depuis 20 ans à cette situation. Je crois, pour répondre à votre question, que depuis 20 ans, nous avons prouvé que nous mettons en œuvre tout ce qui est possible pour essayer à la fois d'assurer notre sécurité et en essayant de faire en sorte que le moins de victimes possible soit commises du côté de palestiniens à Gaza.
Daniel Saada, parlons aussi des origines de cette flambée de violence. Il y a quelques semaines, la dispersion d'un rassemblement de palestiniens qui manifestait contre des expulsions de familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah a dégénéré. Pourquoi avoir utilisé la force à ce moment-là qui a conduit en partie à ces tensions?
Deux choses. La première, c'est que pendant près de 3 semaines, il y a eu en effet plusieurs explosions de violence à Jérusalem. Il n'y a pas eu un seul mort. Parce que nous avons fait preuve de retenue, parce que nous avons fait preuve de modération. Ce n'est pas là la cause de la flambée de violence dont nous parlons aujourd'hui. Le Hamas s'est vu interdire de participer aux élections puisque l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a décidé d'annuler ces élections. Donc le Hamas a été privé de sa victoire dans les urnes. Il essaye aujourd'hui de gagner dans la rue et par la force.
Mais est-ce que vous n'avez pas aidé à cet empêchement des élections? Il est dit qu'Israël n'a pas permis le déroulement du scrutin à Jérusalem.
C'est un prétexte. La décision de l'annulation de ces élections relève de l'autorité palestinienne qui avait peur, qui a craint, sans doute à juste titre, que le Hamas non seulement remporte les élections dans la bande de Gaza, comme ça a été le cas il y a 15 ans, mais également en Cisjordanie.
Est-ce que vous reconnaissez malgré tout que parmi les causes de cette escalade de violence, il y a ces menaces d'expulsion de familles palestiniennes palestiniennes du quartier arabe de Sheikh Jarrah au profit de colons israéliens. Est-ce que c'est là aussi une origine du conflit et qu'il faut aujourd'hui en parler ?
Vous savez, le conflit a provoqué un certain nombre de problèmes, notamment ce que vous évoquez, mais il y a également d'autres images à Jérusalem. Venez à l'hôpital Hadassa de Jérusalem, vous verrez la coexistence, la cohabitation, vous verrez ce qui se passe entre Palestiniens, Israéliens, entre Juifs et Arabes chaque jour. Donc pourquoi toujours se rattacher à ces images ? Pourquoi toujours chercher des prétextes ? Ceux qui veulent la cohabitation, ceux qui veulent vivre ensemble, ils sont nombreux du côté palestinien, savent qu'Israël leur tend la main et que c'est possible.
J'en parle parce que c'est essentiel ce dont nous évoquons. Est-ce que clairement Israël dit à ces Israéliens, vous ne pouvez pas vous approprier ces terrains, même si certains de ces colons affirment que leurs ancêtres, monsieur l'ambassadeur, y habitaient dès 1940.
C'est accessoire.
Mais c'est
un détail accessoire. Vous pensez sincèrement que 8 habitations à Sheikh Jarrah justifient la mort de milliers d'Israéliens ? Vous le pensez sincèrement ?
Personne ne le dit. Mais est-ce que vous
êtes en train d'essayer de me dire qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait qu'on a tiré 850 missiles sur 4 millions de civils avec un débat juridique sur 8 habitations dans une rue de Jérusalem ?
Est-ce qu'on peut quand même parler des différentes situations sans qu'à chaque fois vous nous rameniez à cette situation. Est-ce que je vous dis, est-ce qu'il y a un problème qu'il faut résoudre des deux côtés ?
Il faut impérativement résoudre le problème, vous avez entièrement raison. Mais je répète que cette nuit, il s'est passé quelque chose de très grave. Il y a eu 850 missiles tirés sur Tel Aviv et sur Israël. On a essayé de tuer des milliers d'Israéliens. J'attends de tous ceux qui, depuis des années, nous ressassent inlassablement cette formule du droit inaliénable d'Israël à vivre dans des frontières sûres et reconnues, eh bien qu'ils passent à l'acte. Aujourd'hui, c'est une question qu'il faut trancher.
Mais qui vous écoutez encore ? Parce que la communauté internationale, il faut le dire un peu prudente, voire impuissante, vous dit à vous, Israël, État, à vous de retenir vos coups, vos frappes. Est-ce que vous l'entendez ?
Nous entendons surtout le silence assourdissant de ces 20 dernières années, pendant lesquelles des milliers, des millions d'Israéliens vivent sous la menace de ces missiles. Vous savez, dans le sud d'Israël, le premier mot que les bébés savent dire, ce n'est pas papa ou maman, c'est abri. C'est une situation épouvantable.
Ne croyez-vous pas, monsieur l'ambassadeur, parce que vous êtes dans l'émotion que les enfants palestiniens peuvent aussi dire la même chose et subissent
le même
effroi.
Mais je le comprends parfaitement. Je le vis avec effroi également. Vous croyez que nous envoyons nos bombes sur Gaza avec la même joie
avec
laquelle...
Donc vous reconnaissez que c'est sur des civils également qui a ces victimes collatérales.
Mais nous visons des cibles militaires du Hamas qui sont installées. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme, l'ONU l'a reconnu, y compris d'ailleurs des installations de l'ONU, des écoles de l'ONU, des écoles de l'UNRWA sont utilisés par le Hamas. Que voulez-vous que nous fassions ? Que nous baissions les bras ? Que nous tendions la seconde joue ?
Depuis tout à l'heure, vous ne me parlez que du Hamas. Mais pourtant, il y a une autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, malheureusement, n'est plus audible, n'est plus crédible. Benjamin Netanyahou est de plus en plus dur et n'a pas son gouvernement. Est-ce que c'est ce vide politique qui fait que le Hamas est bien prospère ?
Vous savez, ça fait 20 ans que le Hamas lance des roquettes sur Israël, des missiles sur Israël. Depuis 20 ans, je peux vous égrener un nombre impressionnant de premiers ministres qui se sont succédés chez nous. Le problème n'est pas M. Netanyahou. Le problème n'est pas le gouvernement israélien. Le problème est que le Hamas est l'allié de l'Iran, c'est le bras armé de l'Iran. L'Iran annonce vouloir détruire Israël. Il a essayé de le faire cette nuit.
Ces centaines de roquettes, c'est le bras de l'Iran pour vous ?
Évidemment. Aucun doute là-dessus. Et j'appelle tous les pays qui aujourd'hui essayent de négocier avec l'Iran de bien comprendre lorsqu'on parle des tentatives de déstabilisation régionale de l'Iran. Eh bien, cette nuit, nous en avons vu la preuve.
Mais vous voyez, monsieur l'ambassadeur, Israël avait tenté de normaliser ses relations avec certains pays arabes. Mais à l'aune de ce qui se passe, est-ce que vous n'êtes pas en train, vous-même, puisque vous faites partie de ce conflit, justement, d'accélérer ce risque de conflit régional ?
Au contraire, nous essayons, au contraire, avec ces succès de la normalisation avec plusieurs pays arabes, nous avons montré, justement, qu'il y avait la possibilité d'une entente régionale. Et c'est ce que l'Iran essaye aujourd'hui de détruire.
Mais comment on peut parler d'une entente régionale alors que je vous ramène il y a quelques semaines sur cette esplanade des Saintes Mosquées, lieu tellement symbolique, tellement sensible, il y a eu des milliers de Palestiniens qui ont affronté la police israélienne. Vous ne pensez pas que cela, vous l'avez un peu sous-estimé d'une manière symbolique ?
Vous savez, ça fait maintenant bientôt 50 ans que l'esplanade des mosquées se trouve du côté israélien. Il y a eu, ci et là, des incidents, mais fondamentalement, le droit, la liberté de culte, est exercé en Israël, est exercé sur l'esplanade des mosquées.
Mais puisque vous dites le droit, est-ce qu'il ne faudrait pas respecter le droit international? Je vous ramène encore une fois à Jérusalem-Est, comme ça des deux côtés, il peut y avoir un jour une solution, peut-être
oui,
un début
de solution. La solution viendra de la négociation entre nous pour essayer de trouver la solution.
Vous y croyez vraiment?
J'y crois, fondamentalement. Je pense sincèrement que nous y avons été très proches il y a quelques années. Et il suffit de bonne volonté des deux côtés pour que nous y arrivions.
Je voudrais qu'on évoque, monsieur l'ambassadeur, une scène qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant une foule israélienne festive devant le mur des Lamentations, alors que l'on voit au loin un début d'incendie, semble-t-il, prendre à la mosquée d'Al-Aqsa. Que célébrer cette foule? Que disent ces images, qui ont été détournées peut-être?
Si ce n'était pas grave, je dirais que c'est une farce, une tartufferie. Mais comme il s'agit de quelque chose de très grave, parce que comme vous l'avez si bien évoqué, il y a sur cette esplanade, il y a dans cette ville trois fois sainte, un potentiel extrêmement dangereux de haine et de destruction. Alors je dirais que c'est une fumisterie. Une véritable fumisterie. Il n'y a strictement rien à voir entre les scènes de liesse qui se trouvent devant le mur des Lamentations, qui célèbrent la réunification de Jérusalem. Vous savez, ce que nous célébrons et la raison pour laquelle nous dansons est toute simple. C'est que pendant les 20 ans de l'annexion jordanienne de Jérusalem, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller au mur occidental. Il fallait, je ne sais pas si vous le savez, il fallait fournir un certificat de baptême pour pouvoir approcher du mur des Lamentations. C'est cela que nous fêtons. Et cela n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé sur l'esplanade, ce qui est un arbre qui était en train de brûler. Et je suis absolument désolé de voir que certains en font un usage épouvantable. Ce sont les prochains Colibani ou les prochains Traoré ou les prochain Mera que nous sommes en train d'armer.
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de dire que tout cela va avoir des conséquences pour nourrir le djihadisme,
oui,
notamment sur le sol européen?
Vertu, au sens étymologique du terme, lorsqu'on perd sa vertu, aussi tenté soit-il qu'ils en aient une, quand j'entends certains élus de la République utiliser ces images pour condamner Israël...
Quels élus de la République allaient plus loin? Françaises?
J'ai entendu hier soir des élus de la République utiliser cette image avec des arguments absolument facétieux. C'est une honte.
Est-ce qu'il y a un risque d'exportation du conflit en France?
Mais il est là, le conflit,
il
vous savez. Lorsque Colibani a tué les consommateurs de l'hypercachère, il a dit « je venge les enfants palestiniens ». C'est ce que Mera a fait lorsqu'il a tiré de sang-froid sur des enfants à l'école juive d'Ozar HaTorah. Il est là, le conflit. C'est la raison pour laquelle il faut faire preuve de fermeté.
Oui, mais monsieur l'ambassadeur, on vous demande, est-ce que vous voulez vraiment aussi la paix? Quel est votre objectif? Parce que, et je vais employer un mot peut-être dur, vous êtes condamnés à vivre ensemble.
Absolument pas.
Israéliens et Palestiniens, non?
Absolument pas.
Qui n'a pas le droit de vivre sur cette terre?
Nous sommes destinés à vivre ensemble.
Ça, c'est un mot. Mais la réalité?
La réalité, c'est celle que je vous évoquais tout à l'heure. Venez en Israël, venez à Haïfa, venez dans les hôpitaux du nord d'Israël, venez à l'hôpital Hadassa.
Allons à Gaza aussi, dans la bande de Gaza.
Venez voir la réalité. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous savez, cela fait maintenant 73 ans. Nous fêtons après-demain, le 14 mai, ça sera le 73e anniversaire de la déclaration d'indépendance d'Israël. Il y a 2 millions de Palestiniens, d'Arabes israéliens qui vivent chez nous. C'est une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit. La cohabitation est une réalité
ensemble.
Au quotidien.
Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu ce matin sur Europe 1 toutes nos questions. Bonne journée à vous. Évidemment, on va continuer à suivre cette actualité.